Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. La Syrie révoltée, la Syrie sans printemps, avec François Burga. La Syrie occupe une place à part dans la succession de mouvements, de révoltes et de protestations qui ont reçu le nom collectif de Printemps arabes. Voilà plus de 2 ans qu'avec des fortunes diverses, des opposants se rebellent contre le pouvoir. L'issue semble aujourd'hui encore incertaine. Le second round de négociations à Genève vient d'échouer au mois de janvier 2014. Et la révolte syrienne nous adresse de nombreuses questions. Quel est le rôle des divisions confessionnelles et quelles positions peuvent occuper un certain nombre de puissances internationales qui sont directement impliquées dans cette affaire, différents pays occidentaux et puis aussi la Russie. Merci François Burga d'être avec nous pour évoquer toutes ces questions. Vous êtes un spécialiste du monde arabe, directeur de recherche au CNRS. Et vous venez de publier sous votre direction et sous la direction de Bruno Paoli un ouvrage intitulé « Pas de printemps pour la Syrie » publié aux éditions de La Découverte, les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise 2011-2013. Alors, quelles seraient selon vous les différences radicales avec les autres mouvements de printemps arabe? D'abord les points communs, bien sûr, et puis aussi les différences, là où le cas syrien se distingue fortement.
Il faut rappeler les points communs d'abord, parce qu'on a eu presque tendance à les oublier, on tend à les oublier aujourd'hui. Il faut bien redire que la mobilisation de la population syrienne s'inscrit indiscutablement dans cette matrice commune d'une rébellion de populations contre des régimes qui appartiennent à un compartiment très spécifique de l'histoire. Après les luttes de libération nationale, on a une longue séquence autoritaire. Cette séquence autoritaire prend fin. La lutte des Syriens s'est bel et bien inscrite dans ce contexte, dans cette matrice. Il faut le redire. Qu'est-ce qui l'a spécifié? Qu'est-ce qui a fait que nous avons dû opter pour ce titre négatif, pas de printemps pour la Syrie? Je dirais ces deux choses. Si on prend comme archétype opposé la société tunisienne, c'est d'abord la capacité qu'a eu le régime à instrumentaliser les divisions latentes de sa société, divisions ethniques et confessionnelles plus que idéologiques et politiques, et surtout la conjoncture extrêmement favorable qui lui a permis d'exporter ces clivages internes sur un registre à la fois politique, stratégique. Poutine va le soutenir pour des considérations qui relèvent de la politique internationale, mais aussi sectaire. C'est donc l'extraordinaire capacité du régime à exporter, à régionaliser ce conflit pour ne plus avoir à en assumer seulement le poids, pour ne pas avoir à en gérer la dimension incompressiblement politique, pour qu'il puisse se réfugier sur un autre registre. Il a joué comme un virtuose, il a en partie gagné puisque le conflit syrien actuellement échappe largement aux Syriens. C'est un conflit régional et c'est un conflit international.
Alors, dans cette capacité qu'a eu le gouvernement syrien, en effet, de délégitimer, de disqualifier massivement les mouvements d'opposition en les ramenant à des identités, à des conflits ancestraux, si l'on peut dire, confessionnels et ethniques, on a pu constater que le résultat de cette politique a été un déchaînement de violence des deux côtés, du côté du gouvernement pour la répression, mais également des comportements qui étaient forcément de plus en plus violents de la part des opposants. Et lorsque, du moins dans la presse occidentale, c'est l'impression que l'on a, une sorte de confiscation du mouvement de résistance par des groupes extrémistes. Qu'en est-il véritablement ?
Alors, il faut d'abord rappeler pourquoi cette instrumentalisation sectaire du conflit a été si facile par le régime. Ce régime qui se vantait d'être le garant de la laïcité en avait été en réalité un très mauvais architecte. Pour comprendre la spécificité de la Syrie, j'aimais beaucoup la comparer au Liban. Au Liban, il y a, en 1975, les gens ont sorti le revolver de leur poche arrière et ils se sont tirés dessus sur une base sectaire. Au bout de 15 ans de guerre civile, ils sont arrivés à un degré de modernisation politique qui permettait aux chrétiens, à la moitié de la communauté maronite, de voter sur la même ligne électorale que le Hezbollah chiite. On avait donc bien eu une modernisation politique qui permettait aux acteurs de sortir de leur appartenance primaire pour faire un bout de chemin politique avec des gens avec lesquels, a priori, sur une base sectaire, ils ne devaient rien avoir en commun. Il n'en était rien de tel en Syrie. En Syrie, la société tenait, le ciment qui tenait la société multiconfessionnel ensemble était un ciment autoritaire. C'était le ciment de la terreur. C'était pas le ciment de la culture citoyenne. Et dès lors qu'il était de bon ton, je me souviens même l'ex-président Sarkozy qui vantait cette proximité des minarets et des clochers dans la vieille ville de Damas, on aimait bien relever cet œcuménisme laïque. Et dans la réalité, si on creusait, on voyait bien que le régime n'avait jamais autorisé la moindre transaction, la moindre interaction dialectique, politique des communautés entre elles. Et donc nous étions sur une attitude où chacun avait son camp à soi et il suffisait de mettre le feu aux poudres sectaires pour que, effectivement, très facilement, on arrive. Alors, il ne faut pas exagérer les bons résultats, entre guillemets, du régime. Il reste encore aujourd'hui en Syrie des gens de toute confession, de toute tendance, de toutes appartenances qui ont des idéaux politiques, laïques et profanes. Hein. Et il ne faut pas se laisser gagner par cette tentation de dire « oui, il a réussi, ça n'est plus maintenant qu'une guerre sectaire hein. ». Il faut bien rappeler. Mais alors, ça l'est en partie. Pourquoi ça l'est en partie? Juste une petite anecdote qui est toute fraîche, puisque je l'ai ramené il y a 15 jours à peine du Proche-Orient où j'ai interviewé des réfugiés syriens. Un chrétien de Homs qui expliquait comment ils ont vécu les tout premiers jours des manifestations. Il dit dans notre quartier, qui est un quartier qui s'appelle Hamidiye, qui est peuplé majoritairement de chrétiens, on a vu les forces armées, la police arriver et nous dire il faudra libérer certains appartements du sommet des immeubles, c'est pour votre sécurité. Alors on leur a dit mais de quoi voulez-vous nous protéger? Les manifestants, ils passent chaque semaine devant nous, on les connaît. Ils disent non, non, c'est pour vous protéger des bandes armées. Mais vous savez, les manifestants, ils passent devant nous et ils crient « Islam, chrétienté, nous voulons tous la liberté » ou bien « le peuple syrien est un ». Et ils nous ont dit « non, 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 il y a des bandes armées ». Donc vous voyez bien le mécanisme, il s'est agi dès le début d'effrayer les chrétiens en leur faisant admettre l'idée que, bien sûr, ce n'était pas un soulèvement démocratique, c'était un soulèvement confessionnel d'une seule des communautés, la communauté sunnite, et de la frange radicale de cette communauté.
Du côté des autres communautés druzes et kurdes, parce que jusqu'à présent on a parlé des sunnites et des chrétiens, mais pour les druzes et kurdes, la question de savoir quel rôle jouer dans ce conflit est quand même une question dans chaque cas très spécifique. Comment ont-elles réagi? Que font-elles ces deux communautés aujourd'hui?
Alors si on veut être négatif, on dira que le régime nous laisse quelques exceptions pour confirmer la règle, mais que malgré tout, la majorité des communautés ont adopté une politique qui est, sinon homogène au départ, qui va progressivement le devenir. Disons que les chrétiens la hiérarchie des églises chrétiennes n'a jamais fourni un démissionnaire spectaculaire, une rupture avec le régime. Les druzes sont restés, on va dire, très attentistes. Ils n'ont pas pris les armes contre le régime, mais ils ont très fréquemment, ils se sont trouvés très fréquemment en situation d'aider sur le plan humanitaire. Ils accueillent à Souaïda, au sud de la Syrie, on accueille des milliers et des milliers de réfugiés. Donc, ils votent par leur comportement humanitaire dans le conflit. Les Kurdes, depuis le début, et ça a été là aussi le grand cynisme du régime, le régime n'a pas hésité à soutenir les groupes kurdes qui avaient un agenda séparatiste pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas grossir le front de ses opposants, entre guillemets, démocratiques. Effectivement, il y a peut-être une majorité de Kurdes qui ont vu dans cette crise interne à la Syrie l'occasion tant attendue de se joindre à leurs voisins irakiens dont le destin a été très douloureux, mais qui ont réussi à obtenir un certain coefficient d'autonomie politique dont ils ont tous à se féliciter. Donc il est absolument évident que peut-être bien une majorité des acteurs politiques kurdes espèrent tirer leur épingle du jeu et avoir un destin différent. Pour les Alaouites, alors évidemment, pour les Alaouites, c'est beaucoup plus compliqué parce que le degré, encore une fois, le pouvoir a eu une attitude sectaire. Ce pouvoir qui se dit laïque a eu dans la réalité, au pied du mur du recrutement des forces de sécurité et de la hiérarchie militaire, il a eu une politique
alors,
sectaire.
Attendez, que représentent les Alaouites dans la société syrienne? C'est 15%?
8%?
Non, même pas. 10%?
Oui, bien sûr. Mais tous les establishments, tous les appareils de sécurité et de l'armée étaient alaouites. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, le régime avait réussi, et c'est une des raisons pour lesquelles on dit parfois que les villes de Damas et d'Alep n'ont pas bougé aussi rapidement qu'on aurait pu le penser au moment du soulèvement populaire. On dit parfois que le régime avait réussi un certain coefficient d'ouverture sur la bourgeoisie sunnite commerçante, c'est-à-dire qu'il était arrivé à se crédibiliser comme un régime non sectaire, laissant une part d'oxygène politique et économique aux sunnites. Donc il faut le dire, il faut le porter à son crédit. Mais il n'est jamais parvenu à faire dissocier l'image des Alaouites des versants négatifs du pouvoir.
Alors que s'est-il passé dans les zones qui sont de manière plus ou moins stable aux mains des opposants? Par exemple, parce que quand à la fin 2012, quand la zone libérée d'Alep était fonctionnée, comment ça se passait dans cette...
Alors d'abord, il faut faire la part du feu et ne pas nier que le curseur politique dans cette région du monde, c'est-à-dire lorsque vous organisez des élections libres dans cette région du monde, à Tunis, en Égypte, demain en Libye si on recommence, et en Syrie, le curseur politique ne va pas sur la gauche laïque des années 70. Il vaut mieux le savoir. Il y a un énorme malentendu dans la perception, on va dire occidentale pour faire simple, des dynamiques politiques dans cette région du monde, un malentendu sur la place qu'occupe la religion dans ce segment de l'histoire de cette région du monde. La religion joue au Proche-Orient le rôle, elle tient la place, elle est indissociablement attachée à l'efficace sociale comme elle l'était au Portugal, en Pologne, en Italie, en Espagne, il y a 40, 30, 20, 10 ou même actuellement. Et si on ne comprend pas ça, on a un réflexe qui consiste à criminaliser selon des standards qui sont les nôtres aujourd'hui. On peut faire la même chose pour les codes vestimentaires. On a une réticence à l'égard de la longueur du vêtement de la femme et on l'identifie à un déficit de modernisation et on ne veut pas se souvenir que ces codes vestimentaires ont été quelque part les nôtres en France, il y a 30 ans ou 40 ans, et que bien sûr, si on va en Pologne, au Portugal, etc., on va s'apercevoir qu'il n'y a pas une rupture absolue, il y a un différentiel historique. Et donc, il ne s'agit pas de nier que la première façon qu'ont eu les Syriens de la majorité démographique, c'est-à-dire des sunnites, qui avaient été dans le collimateur plus particulièrement de la répression du régime depuis les événements des années 80, depuis la première rébellion, depuis ce qu'on pourrait peut-être appeler un premier printemps arabe en Syrie. Ils étaient dans le collimateur de la répression. Donc la toute première façon d'affirmer le départ, de manifester leur rupture avec Bachar, c'est de se faire pousser la barbe. Il ne faut pas le nier. Le lexique qui est le plus spontanément utilisé par cette partie de la société syrienne et le lexique religieux. Bon, une fois qu'on a dit cela, il faut rétablir des critères susceptibles de nourrir notre appréciation et de tracer un trait entre les forces politiques qui sont infréquentables et il en existe, et s'interroger quelles places tiennent-elles, d'où sont-elles venues, pourquoi sont-elles là, et puis toutes les autres qui emploient le lexique religieux, mais qui néanmoins ne sont pas, en tout cas à mes yeux, des forces politiques infréquentables. Si on emploie ces critères relativement rationnels, on va dire, pour faire très vite et très simple, qu'il y a 10 ou 15% des acteurs militaires actuellement présents en Syrie qui ont un agenda qui n'est pas un agenda syrien et qui n'est pas un agenda universel, c'est un agenda régional. Sur le plan temporel, ce n'est pas celui du conflit syrien. Ils se battaient avant, ils se battront après. Ils se battaient ailleurs, ils pourraient se battre demain ailleurs. Cela, c'est ce qu'on appelle les djihadistes ou cette partie du spectre politique qui veut profiter de la crise syrienne pour réaliser un objectif politique qu'ils ont échoué à réaliser, par exemple, dans l'Irak voisin.
Mais s'ils interviennent, parce que 15%, 20%, c'est quand même beaucoup, s'ils ont eu cette sorte de capacité d'entrée, c'est bien à la suite de ce que vous appelez, avec des formules très fortes dans votre ouvrage, la fabrication de la guerre civile, l'union cynique autour de la pratique systématique de la division confessionnelle. C'est bien parce que cette catégorisation a été faite, qu'une brèche a été ouverte pour que les djihadistes...
On peut aller plus loin que ça. Parce que quand on dit la fabrication du djihadiste, ça peut être une métaphore, mais ça peut être une expression au premier degré. C'est-à-dire, on sait maintenant, c'est parfaitement documenté, qu'en mai 2011, le régime syrien a libéré plusieurs centaines de djihadistes qu'il avait manipulés dans des conflits antérieurs, en Irak et au Liban. Il les a remis en circulation, en sachant très bien que c'était une arme à double tranchant, que jusqu'à un certain point, il allait remettre dans la nature avec des armes qui allaient lutter contre ses propres forces. Mais il estimait que le bénéfice politique, aussi bien à l'intérieur que sur la scène régionale et internationale, serait supérieur. Et donc, il a laissé faire.
Alors, au bout du compte, quel est le résultat ? Sont-ils capables de priver toute chance la possibilité d'une forme de coexistence dans l'hypothèse où Bachar el-Assad quitterait le pouvoir, sont-ils capables de saper radicalement toute espèce de mise en place d'un État syrien qui puisse être multiconfessionnel et multiethnique? Et par ailleurs, sont-ils capables de disqualifier complètement la révolte syrienne aux yeux de toute l'opinion internationale occidentale en particulier?
Alors, la seconde question que vous posez, je crains que nous soyons en droit d'y répondre très vite par l'affirmative. On a le sentiment parfois, notamment depuis l'accord sur les armes chimiques, qui était un espèce de tour de passe-passe qui a permis à la communauté internationale de se désengager complètement de la seule politique qui, à mes yeux, je suis choqué parfois de dire ça, moi je me vois comme un chercheur en sciences sociales, mais la seule possibilité d'intervention efficace, c'était d'aider les populations syriennes à se protéger de ce terrible déséquilibre militaire qu'il y avait, qui faisait que les armes lourdes, l'aviation, pour même pas parler des armes chimiques, toutes les armes lourdes étaient monopolisées par un camp.
Donc, eh bien, c'est après la destruction du quartier, enfin l'attaque contre le quartier de la Ghouta, dans la banlieue de...
Après l'attaque contre le quartier de la Ghouta, où il a été question, et encore une fois, très récemment, je m'entretenais avec des hauts responsables qui ont fait sécession, qui disaient, lorsque les rumeurs... J'ai eu en face de moi un très haut responsable. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes parti? Il m'a dit, moi, je suis parti quand il y a eu les rumeurs de frappe américaine. Parce que quand il y a eu les rumeurs de frappe américaine, croyez-moi, c'était la débandade, tout le monde partait. Donc, quand on dit maintenant, ces frappes auraient été inutiles, ces frappes auraient été inefficaces, non. Ces frappes, à la fin, au moment où elles allaient intervenir, elles intervenaient, elles auraient parfaitement pu faire basculer le rapport de force entre ceux qui voulaient encore soutenir et ceux qui voulaient partir.
Mais alors, la menace de ces frappes, déjà, d'après ce que vous dites, a été assez efficace. Donc, à partir du mois de septembre 2013, se met en place cet accord sur le désarmement chimique de la Russie. Selon vous, pour un temps, ça hypothèque la possibilité, par exemple, d'un souci de rééquilibrer les forces en présence?
Ah, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Encore une fois, des témoignages qui ne sont pas présents, mais que j'ai déjà eu dans l'ouvrage, parce qu'ils sont beaucoup plus récents. C'est l'état d'esprit des combattants que l'on peut côtoyer si on va à Amman ou si on va à Zaatari, le grand camp de réfugiés. Eh bien, c'est un petit peu le désespoir devant l'une des raisons qui a fait des djihadistes aussi, on revient en restant convergent par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que les forces qui étaient un peu moins djihadistes, qui étaient un peu moins radicales, qui étaient les interlocuteurs politiques naturels des Occidentaux, occidentaux, elles ont été abandonnées. Elles n'ont pas été, on ne leur a pas donné les moyens de se crédibiliser militairement. On a émis toutes sortes, les Arabes conservateurs, les Saoudiens et les Qataris ont financé des armements. Mais les Français, les Britanniques et même les Américains, parce que c'est de l'ordre du compte-gouttes.
Les Américains le font un peu quand même.
Le font un peu, mais dans aucunement en des termes qui permettraient d'empêcher ces hélicoptères de venir lâcher des barils de 800 kilos de TNT à 2000 mètres d'altitude, à l'abri des armes légères. On n'a jamais donné à l'opposition les moyens de faire cesser la maîtrise aérienne. Alors, il faut bien comprendre que nous avons émis des exigences idéologiques à l'égard de l'opposition syrienne. Oh, il y a trop de poils de barbe, parce que c'est toujours ce problème-là. Dès le début, nous avons dit, il y a trop de frères musulmans dans le Conseil national syrien. Et nous avons, discréditant les modérés, nous avons effectivement poussé la crédibilité de ceux qui les témoignent. Alors ça, c'est aussi une variable. Alors, je pense que, est-ce que la première question, la plus importante, est-ce que tout est joué? Est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité de retour à une Syrie multiconfessionnelle? Là, je pense qu'on a le droit, on a même le devoir de dire tous ceux qui connaissent ce pays, même si on ne sous-estime pas l'ampleur du traumatisme vécu par les 3 années de crise, par ce venin de la radicalisation sectaire, la Syrie ne se donnera pas des institutions politiques sectaires unilatérales. La Syrie, les Syriens, tous les Syriens que vous rencontrez font assaut de certitude que ce pays est capable de préserver son pluralisme communautaire dès lors que le curseur reviendrait sur un processus institutionnel. Y compris dans les forces dites djihadistes. Il y a deux forces djihadistes, l'État islamique, on ne va pas entrer dans les détails, et ce front qu'on appelle Jabhat al-Nusra, qui a évolué, qui est compliqué. Eh bien, les témoignages que l'on reçoit directement du terrain voudraient que les gens de ce groupe, qui est pourtant perçu ou décrit comme djihadiste, sont prêts à se retirer dès lors qu'un processus institutionnel serait remis en place. Ça ne serait pas la première fois dans l'histoire de ces familles politiques.
Mais qu'est-ce qui pourrait l'amener, ce processus de transformation,
l'évolution du rapport de force international,
c'est-à-dire la
Poutine
possibilité
ait trop d'ennuis du côté
lequel défend au début de mars 2014, il défend l'intervention humanitaire en Crimée pour protéger les populations et a été particulièrement sourd à cet argument pendant les mois passés à propos de la Syrie. Donc c'est un rééquilibrage des forces et une chance militaire réelle donnée à l'opposition syrienne qui pourrait permettre de modifier le.
J'aimerais que quelqu'un me contredise et me démontre le contraire. Pour ma part, je ne vois pas de solution négociée, puisqu'on a vu à Genève que nous n'étions pas sur le terrain d'une négociation, puisque le régime n'a jamais fait le pas de reconnaître ses opposants en tant que tels. Il les a toujours représentés comme les ambassadeurs du terrorisme importé de l'étranger. Donc on n'a jamais été sur le terrain de la négociation. Donc on pourrait multiplier des Genèves de ce type, on n'aboutirait nulle part. Je pense que la seule solution, malheureusement, pour l'instant, c'est de donner à la population les moyens de se protéger plus efficacement de ce côté très unilatéral qu'à l'offensive militaire aérienne. Et à terme, je pense que ce régime, s'il sent une pression internationale suffisante, pourrait s'écrouler de l'intérieur. Mais le régime, comme je l'ai dit au début, est parvenu à exporter les divisions sectaires de sa propre société. C'est-à-dire qu'il est arrivé à faire apparaître l'opposition syrienne comme des sunnites radicaux. Et dès lors, il est parvenu à mobiliser tous ceux qui, dans l'environnement régional, ont peur des sunnites radicaux. Et donc, il a mobilisé, bien sûr, le Hezbollah libanais, bien sûr, l'Iran. Mais on le sait, il a réussi à mobiliser des alaouites en Turquie, des alaouites au Liban. Il a réussi à déstabiliser le gouvernement turc en lui rappelant qu'il avait d'abord quelques alaouites au sens strict du terme et puis des alévis qui pourraient éventuellement se sentir concernés par ce clivage sectaire. Et il est arrivé à mobiliser des chiites irakiens. Hein. Il faut qu'on rappelle maintenant, quand on dit djihadistes, intervention extérieure, le nombre des djihadistes qui luttent en Syrie est plus élevé s'il s'agit de ceux qui luttent dans le camp du pouvoir que ceux qui luttent dans le camp de l'opposition. Parce que le Hezbollah a plusieurs milliers, sans doute près de 10 000 par rotation, combattants terrestres. Ça, c'est une intervention extérieure.
Okay, il y a une officialisation totale de l'engagement du Hezbollah aux côtés dans le conflit.
Voilà. Donc, l'écho régional, il est d'abord celui des réfugiés. Ces millions de réfugiés qui ont, par exemple, changé la structure démographique du Sud-Liban. Ou la structure confessionnelle du Sud-Liban. Il y a plus de sunnites au Sud-Liban maintenant que de chiites. La Jordanie qui croule également, l'Irak, la Turquie. Donc il y a cette dimension économique, humanitaire bien sûr, mais économique. Et puis il y a cette dimension sectaire, encore une fois. L'Iran a peur de l'émergence d'un régime sunnite radical en Syrie. Et donc c'est malheureusement, et c'est ce qui fait la force des troupes qui combattent pour le régime, c'est que ce ne sont plus seulement des troupes qui défendent un régime autoritaire délabré et désavoué par sa population. Ce sont des chiites qui se battent contre des sunnites. Et c'est ce qui a donné cette nouvelle, entre guillemets, de regret, vigueur à la capacité militaire du régime sur le terrain.
Et si nous pouvons terminer cet entretien par un regard plus large, la diaspora syrienne qui est très importante. Alors deux essais sont consacrés à l'Amérique, à la diaspora syrienne en Amérique latine. Alors c'est finalement un aspect du problème qu'on voit rarement, mais comment se manifeste-t-elle? Elle est plutôt chrétienne d'origine, me semble-t-il. Et oui, comment se manifeste-t-elle à l'égard du conflit actuel?
Il faut bien dire encore une fois que la diaspora est divisée, d'accord? Mais si on prend ces deux exemples de l'Amérique latine, effectivement, cette diaspora de la fin du 19e siècle est une diaspora plutôt chrétienne. Et effectivement, elle a été plutôt sensible au discours. En 2007, Bachar al-Assad a fait une très belle tournée, très intelligente, très fine, flattant ses entrepreneurs expatriés. Et à ce jour, un membre de la coalition qui s'était rendu au Brésil il y a 2 ans de cela s'était entendu répondre par les autorités. Vous savez, nous, on n'a pas vraiment une position. On a la position de la communauté syro-libanaise qui est dans notre pays. Faites-la changer d'avis et nous changerons éventuellement d'avis. Et donc actuellement, effectivement, les régimes de l'Amérique latine ont suivi la tonalité donnée par leur communauté syro-libanaise majoritairement chrétienne et majoritairement favorable au régime.
Israël, là-dedans, parce qu'on lit des reportages sur lesquels des médecins israéliens soignent des combattants syriens blessés. Et Israël, et c'est quand même un ciment là, de la violence gouvernementale radicale, la prétendue lutte contre la domination israélo-américaine dans la région. Donc comment se situe Israël?
Je vais vous dire quelque chose d'assez paradoxal, mais ça m'a été dit par un haut responsable syrien en exil en Jordanie il y a 3 semaines. Il m'a dit, je ne sais pas si les Israéliens ont conscience qu'ils ont en main la possibilité de s'acheter le droit de vivre en paix légitimement dans cette région pour l'avenir proche et lointain. Si seulement ils voulaient bien comprendre qu'une intervention crédible pour mettre fin à l'hégémonie militaire du régime par rapport à l'opposition est à leur portée. Alors bon, je sais que c'est pas un propos banal, c'est pas moi qui l'ai tenu, je l'ai entendu. Effectivement, Israël a un agenda assez complexe. Il y a plusieurs Bachars. Le Bachar du Golan est un bon adversaire. Le Bachar qui soutient le Hezbollah n'est pas un bon adversaire. Donc l'agenda israélien est relativement complexe. Israël a pris des initiatives assez surprenante. Effectivement, je suis en devoir de confirmer ce que vous venez de dire. Israël accueille, et quand j'ai dit ça, mon interlocuteur m'a interrompu. Il m'a dit non, il ne les accueille pas, il les accueille royalement.
Merci François Burga pour cet entretien.
Merci à
François Conat qui a réalisé cette émission. Merci à Cédric Châtelus qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier. La semaine prochaine, nous parlerons de la nature et du sacré. Est-ce que le souci que nous avons de l'écologie, de la nature, de l'environnement aujourd'hui contribue à une sacralisation subreptice avec Catherine Larère. N'oubliez pas, juste un instant, Marie Richeux pour pas la peine de crier. Quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. Et d'ici là, très bonne semaine à tous.